En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Inutile de préciser que c'est particulièrement impressionnant, émouvant, et il y a de quoi être fier de voir s'exprimer ici, de passer la parole à nos orateurs, à vous aussi, bien sûr, dans un lieu qui est sans doute le plus prestigieux de notre nation. Je ne dis pas uniquement de la République, car c'est toute l'histoire de notre culture qui est ici incarnée à travers les académiciens et notamment l'Académie des sciences qui nous accueille aujourd'hui ici. Je voudrais immédiatement passer la parole pour commencer, bien entendu, à celle qui est notre hôtesse aussi aujourd'hui au nom de l'Académie des sciences, dont vous êtes une des secrétaires perpétuelles, Madame Cossard. Une des plus grandes spécialistes mondiales de la recherche en microbiologie moléculaire et cellulaire. Vous êtes professeur à l'Institut Pasteur. Vous avez été élu en 2015 à cette fonction de secrétaire perpétuel. Dans cette section chimie, biologie et médecine, vous êtes titulaire de plusieurs prix. La médaille d'or Louis Pasteur de la Société Sud-Est de médecine, le prix UNESCO et le prix de l'INSERM. Madame Cossard, on ne peut pas ne pas commencer ici en rappelant à la fois ce lieu, ce qu'il représente, mais aussi cette Académie des sciences qui nous accueille, ses 350 ans, l'Institut, je vous en prie.
Merci. Je suis très contente d'accueillir une si grande foule à l'Académie et j'ai proposé de vous présenter d'abord l'endroit où nous étions. Donc je voudrais vous dire que nous sommes sous cette fameuse coupole, dans ce qu'on appelle le palais de l'Institut, et l'Académie des sciences est dans ce palais depuis 1805, puisque avant nous étions dans le palais du Louvre. Donc la coupole est un endroit un peu particulier et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont rendus compte qu'elle n'était pas circulaire, mais qu'elle était un peu ovale, qu'elle avait une forme d'œuf, et donc c'est une coupole qui à l'extérieur est quand même ronde. Je ne peux pas passer beaucoup de temps sur toute l'histoire, mais je voudrais quand même vous dire que cette coupole est en fait la coupole qui domine l'église qui était dans le collège des quatre nations qui avait été créé par Mazarin. Alors pour ceux qui ont un peu oublié qui était Mazarin, Mazarin était italien, il était né en 1602 et il avait reçu une excellente éducation qu'il avait amené en Espagne, qu'il avait amené en Italie au service du pape. Et puis il est arrivé à Milan et c'est là où il a commencé à être reconnu comme étant un grand politicien. Et il a rencontré Richelieu, le fameux ministre de Louis XIII, qui lui a demandé d'être son successeur dès 1640. Donc Mazarin, après Richelieu, arrive en 1640 en France et devient le ministre de Louis XIII et le parrain du futur roi Louis XIV, qui n'avait que 4 ans à ce moment-là. Une année plus tard, Louis XIII meurt et Mazarin devient Premier ministre, gouvernant la France. Il est très intéressé par les arts, les peintures, les sculptures, et il accumule un certain nombre d'objets d'art qu'il met dans son palais rue Richelieu. Quand il meurt en 1661, à Vincennes, il est encore le Premier ministre du roi, mais il venait juste de faire un testament. Et dans son testament, il donnait une grande somme d'argent au roi et il demandait qu'on construise un collège, qui est ce fameux collège qu'on a appelé maintenant le collège des quatre nations, puisqu'on venait d'accueillir quatre nations, l'Artois, les Flandres, le Hainaut et le Luxembourg, l'Alsace, le Roussillon et le Pignerol. Donc le but, c'était d'éduquer dans ce fameux collège des quatre nations 60 étudiants qui seraient des étudiants qui parleraient bien français et qui seraient donc des bons citoyens. Les instructions laissées par Mazarin n'indiquaient pas exactement l'endroit pour la future école et c'est Colbert qui avait travaillé pour Mazarin, pour les finances privées de Mazarin, qui a été en charge de l'exécution testamentaire. Il choisit alors Louis Levaux, qui avait déjà réalisé le Louvre, et Levaux a commencé à choisir l'endroit, et comme par hasard, il le choisit juste en face du Louvre, pour que, effectivement, du Louvre, on puisse voir le Collège des Quatre Nations, et que du Collège des Quatre Nations, on puisse voir le Louvre. Soyez conscients qu'à l'époque, le Pont des Arts n'existait pas. Donc, Levaux a construit son collège. La construction a commencé en 1663. J'ai presque fini. Pas tout à fait. Cela
ah non, mais
a pris,
c'est passionnant.
Non, mais ça a pris 25 ans. Et ça a, le collège a été ouvert en 1688. La bibliothèque Mazarine a été ouverte aux étudiants une année après, mais cette église avait été ouverte en 1674. Donc, nous sommes dans la chapelle, comme je vous l'ai dit. Revenons là-haut, vous pouvez voir 12 médaillons qui représentent les 12 apôtres. À un niveau inférieur, vous avez les deux lettres SL pour Saint-Louis, qui était donc le roi très aimé des Français. Et vous avez une phrase en latin que je m'empresse de vous lire. « Cedebit sub umbracula eius in medio nationum ». C'est une phrase d'Ézéchiel dans le Vieux Testament. Et cela voudrait dire « il sera assis sous l'ombre parmi les nations ». Alors, on pense que c'est pour que Mazarin soit assis sous l'ombre de Dieu parmi les nations. En fait, Mazarin n'a jamais été enterré dans cette église. Il était mort, comme je vous l'ai dit, à Vincennes, et ses ossements ont été amenés ici, dans la crypte. Mais au moment de la Révolution, les ossements ont été jetés, sans doute, dans la Seine. Et en fait, nous n'avons pour remercier Mazarin qu'un cénotaphe, c'est-à-dire un monument qui est vide et qui est situé derrière le podium qui est là, vous pourrez le voir. Donc, le Collège des Quatre Nations a très bien marché, il avait une excellente réputation, des hommes importants comme D'Alembert ont été étudiants de ce collège. Et puis, au moment de la Révolution, ce collège a été évidemment fermé. Alors, je vais aller assez vite pour vous dire que quand l'Académie était encore au Louvre, Bonaparte a été élu et c'est lui qui a décidé de faire passer les académies du Louvre au Collège des Quatre Nations. Donc, nous avons traversé la rivière, si on peut dire, en 1805. Donc, les académies ont été créées les unes après les autres. En 1635, Richelieu avait créé l'Académie française. L'Académie des sciences a été créée en 1666. C'est pour ça que nous fêtons cette année les 350 ans. Donc, dernier mot pour vous dire ce qui se passe dans ce palais de l'Institut. Le palais de l'Institut abrite 5 académies. L'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. L'Institut est, gouverné par le chancelier, qui s'appelle M. Gabriel de Breuil. Et en fait, nous siégeons, en tout cas chacune des académies, à un jour par semaine. Donc l'Académie des sciences siège le mardi, le lundi, sciences morales et politiques, etc. Donc, je ne vais pas parler trop longtemps de l'Académie des sciences, mais simplement vous donner les chiffres.
Combien êtes-vous à l'Académie des sciences?
Je vais vous donner les chiffres très...
Toutes les académies n'ont pas autant de...
Non. Je vous donne les chiffres très précis, je ne voudrais pas faire d'erreur.
Toutes divisions confondues.
Je vous donne les chiffres très précis. 258 membres, dont 28 femmes.
Tout est dit.
Bon, nous avons 136 associés étrangers, 88 membres correspondants. Donc, je vais m'arrêter là pour la présentation de l'Institut de France de l'Académie des sciences et peut-être répondre à vos premières questions.
Ce rappel historique vaut bien, mesdames et messieurs, d'être salué par quelques applaudissements. Alors, nous avons parmi nous ici à nos côtés, merci Madame la secrétaire perpétuelle, je dis là, même si l'Académie française je crois n'a pas validé la féminisation du titre, nous avons, je vous présente nos invités, Luc Ferry, Monsieur le ministre, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, vous avez été longtemps président du Conseil national des programmes aussi et vous êtes un des auteurs en matière d'essai, de philosophie bien entendu, un des auteurs les plus lus en France, une quarantaine d'ouvrages. Tout le monde a entendu hier l'annonce de la parution, hier ou avant-hier, de Cette façon d'être heureux, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci, la révolution transhumaniste, comment la technomédecine et l'ubérisation du monde, donc l'intelligence artificielle notamment, vont bouleverser nos vies, paru chez Plon, dans lequel, évidemment, essai très construit et qui pose la question, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? On la posera d'emblée, évidemment, aux scientifiques qui sont là. Je voudrais aussi vous présenter Claude Le Pen, qui est un de nos économistes, qui connaît le mieux notre système de santé. Et pour cause, vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, vous y dirigez le Master d'économie de la santé. Vous êtes président du Collège des économistes de la santé. Vous avez publié, par exemple, « Où va le système de santé français ?» Et aujourd'hui, vous êtes un de ceux qui ont décortiqué le programme des différents candidats, et pas uniquement de la primaire de droite. Avec nous, un assureur, Charles Relecom. Vous êtes le président de Swiss Life France. Un assureur, ben, tout simplement parce que je dirais que je mets tout le monde derrière cette dénomination d'assureur, mais les assureurs publics, ou ceux qui sont les caisses de financement de notre sécurité sociale notamment, ou les assureurs privés, mutuelles notamment, vous êtes les pivots en Occident d'abord, et puis dans l'ensemble du monde qui a les moyens d'organiser la solidarité de cette façon, vous êtes les pivots de notre système de solidarité, de mutualisation pour la santé, le risque médical, maladie, et puis pour la retraite évidemment aussi. Donc c'est un des aspects évidents du débat sur l'allongement de la vie aujourd'hui, d'où votre présence parmi nous. Et puis je finis ce tour de table avec vous, professeur Arnold Munich. Vous êtes pédiatre, vous êtes généticien à l'hôpital Necker Enfants Malades, docteur en sciences donc, et enseigné la génétique à Paris Descartes. Et vous avez fondé un institut il y a quelques années, l'Institut Imagine, qui a développé un centre de recherche assez unique en Europe et dans le monde, et qui associe précisément recherche et médecine liées à l'enfant et au progrès. Et je vais commencer par vous deux. Alors, Madame Cossard, vous allez me pardonner, mais j'insisterai sur le fait que, d'emblée, je voudrais vous demander à tous les deux, mais donc un tout petit peu moins long, de nous rappeler à la fois d'où nous venons en termes de progrès, d'allongement de la vie depuis une vingtaine d'années, au moins les 20 dernières années, et surtout le transhumanisme, ou en tout cas, derrière ce terme, on verra ce que l'on y met, mais à quoi devons-nous nous attendre en matière de médecine, en matière de biologie, en matière de microbiologie, dans les années à venir, à quel progrès on a tous en tête, Carmat, le cœur, j'ai découvert il y a quelques jours que le génopôle d'Evry était en train d'inventer, en pratique, un pancréas artificiel. J'ai découvert qu'une start-up de Lyon est en train de fabriquer, refaire les tissus d'une oreille en 3D. On sait tous qu'on va refaire peut-être, nous dit-on, des organes à partir de cellules souches. Est-ce que tout ça est complètement un roman médiatique ou une réalité? Professeur Munich.
D'abord, merci. Je suis ravi d'être ici pour débattre de ce sujet si important pour nous tous. Je dirais que la première priorité pour nous, c'est scientifique, c'est d'être modeste. La modestie, c'est le contraire de l'orgueil. C'est la hantise de la toute-puissance. Je crois qu'un scientifique ne peut pas se dire scientifique s'il n'a pas cette exigence de modestie et un esprit critique. Donc l'esprit critique, c'est-à-dire la capacité à se remettre en cause, et donc en particulier à ne pas surestimer la science, c'est aussi un élément fondamental de l'identité d'être un scientifique. Et la troisième chose qui est très importante, c'est l'indépendance par rapport aux enjeux de pouvoir et d'argent. Donc, en répondant à votre question, je voudrais démarquer un petit peu, dans la mesure où je crois que les promesses qu'on fait pour demain ne peuvent se juger qu'à l'aune du passé récent. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans, en 25 ans? C'est vrai que notre espérance de vie s'est allongée. On a gagné environ un trimestre par année depuis quelques années, donc ça fait un an tous les 4 ans, pratiquement. De là à extrapoler qu'on va continuer de gagner un trimestre par an, il y a un pas que personnellement je ne franchirai pas. Je pense qu'on va arriver rapidement à l'asymptote et qu'on ne pourra pas aller très au-delà de ce qu'on a atteint aujourd'hui. Alors comment l'a-t-on atteint? C'est votre question, je réponds très brièvement. Ce n'est pas par l'essor des sciences qu'on a gagné un trimestre par année depuis des années.
Premier paradoxe. Alors,
à mon avis, ma légitimité, je la tire de mon expérience de médecin, de professionnel. On tient l'allongement de la vie à trois causes. La première cause, c'est la culture de la prévention qui s'est invitée en France depuis une ou deux générations. C'est un progrès gigantesque, la prévention, la conscience de la prévention. La médecine préventive qui avait été inventée en France par des penseurs français ne s'est développée réellement qu'en Allemagne et en Angleterre, et bien avant la culture de la prévention en France. On en reparlera si vous voulez. Le deuxième élément extrêmement important, à mon avis, ce sont les soins urgents, l'assistance urgente quand on a une urgence vitale. C'est tout bête, mais il fallait l'inventer. Le SAMU, le SMUR, les défibrillateurs, c'est ça qui a fait, pour une grande part, l'allongement et de la vie, parce qu'on arrive maintenant, mieux que par le passé, à se remettre d'un accident aigu. Puis la troisième chose, c'est le dispositif médical.
Alors les dispositifs médicaux, il faut expliquer aux gens ce que c'est.
Tout ce qui soigne sans être un médicament, voilà.
Le l'IRM, par exemple.
C'est ce qui permet d'opérer une personne extrêmement fragile par endoscopie, par célioscopie. C'est ce qui permet d'opérer quelqu'un qui vient de faire un infarctus en débouchant les coronaires. C'est ce qui permet d'arrêter une hémorragie cérébrale en mettant un petit stent dans le cerveau. C'est toutes ces petites astuces qui ne sont pas très extraordinaires au point de vue scientifique. Ce ne sont pas des prouesses scientifiques, mais c'est des avancées technologiques qui changent la vie. Voilà.
Mais alors les médicaments, quand même.
Bien
il y a
sûr,
des virages, les antibiotiques.
Avant tout, les antibiotiques, les médicaments issus de l'immunologie, les anticorps monoclonaux. Mais c'est vraiment par esprit de contraste, de paradoxe, que j'ai préféré citer la prévention, les soins urgents, pour en finir évidemment par les médicaments.
Et alors demain, qu'est-ce qui est en train d'advenir ? Parce qu'on nous parle de l'homme augmenté, d'une capacité à aller plus loin. Le docteur Laurent Alexandre nous dit ceux qui vivront 500 ans sont déjà nés et présents dans cette salle. Où va-t-on ?
Enfin, moi, je voudrais quand même dire à Arnold que je suis d'accord avec ce qu'il dit pour la médecine préventive, mais il ne faut quand même pas se cacher la face que les antibiotiques ont quand même vraiment été un grand progrès. Alors évidemment, maintenant, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de micro-organismes qui sont devenus résistants aux antibiotiques, et c'est pour ça que c'est là où j'adhère avec ce que Arnold vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut être très prudent, c'est-à-dire qu'une grande avancée peut parfois mener à quelque chose qui est inattendu. On ne s'attendait pas à avoir toute cette avalanche de microbes qui sont maintenant résistants aux antibiotiques.
Bon, ça, c'est le premier point. Voilà. Alors, on a l'impression que vous ne voulez pas répondre à la question que je vous pose sur ce qui va advenir. Ou ce que, alors, je me tourne vers Luc Ferry, pardonnez-moi, et je vais vous repasser la parole.
Mais, je vous écoute.
Je pourrais d'emblée vous poser la question des enjeux,
merci,
évidemment.
Merci,
on va y venir.
Oui.
Mais tout de même, vous avez fait dans cet ouvrage un recensement aujourd'hui, et de ceux comme Jeff Rifkin et d'autres qui sont les théoriciens du transhumanisme, mais aussi de ces techniques, au moins de ce qui est en train d'advenir. Bon. Donc, décrivez-nous un peu, en paradoxe, ce qui nous est en train de se présenter à nous, et le carrefour dans lequel se trouve aujourd'hui la science. Est-ce qu'on va aller plus loin ou on va juste se contenter d'améliorer, vivre beaucoup plus longtemps ou améliorer?
Écoutez, d'abord, j'écoute les savants. Vous savez, les grands sages chinois, vous avez vu ça, dans toutes les représentations des sages chinois, ils ont d'immenses oreilles. Et Bouddha disait, ils ont deux immenses oreilles et une seule bouche, parce qu'il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et quand j'étais petit à l'époque, on m'appelait planeur, parce que j'ai des grandes oreilles et j'avais les cheveux très courts. C'est pour ça que j'ai les cheveux longs aujourd'hui. Mais soyons sérieux, j'écoute les savants. Ce n'est pas simplement pour blaguer que je vous dis ça, parce que moi j'ai suivi 3 années de biologie à assez haut niveau. J'ai eu la chance de suivre les cours du professeur Hadout, qui était une merveille de professeur, qui était un type absolument génial, comme pédagogue, et aussi comme être humain, et qui savait beaucoup de choses. Grâce à lui, j'en ai appris beaucoup. Et puis j'ai été ministre de la Recherche, comme mon camarade Fillon, et évidemment, ça m'a obligé aussi à me passionner pour les sciences. Et j'étais très, très, très en désaccord avec l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. Mais bon, juste pour donner le paysage général. Le transhumanisme, c'est quoi ? D'abord, c'est un mouvement qui est financé à coût de milliards de dollars par Google, et pas seulement Google, par les GAFA, par Elon Musk, le patron de Tesla, de SpaceX, l'inventeur de PayPal. Et donc, toute la Silicon Valley est derrière, avec toutes sortes de filiales biotech, comme Calico, par exemple, qui a été créée en 2013, Californian Life Company, qui est une filiale de Google, dont la seule et unique finalité est de travailler sur la longévité humaine. Le projet transhumaniste, il repose sur 3 idées. Alors, je vous les indique très très vite parce que, mais on peut y consacrer un séminaire d'une année. La première idée, c'est de passer d'une médecine qui a toujours été une médecine thérapeutique, depuis les Chinois et les Grecs anciens, à une médecine de l'augmentation, de l'amélioration de l'espèce humaine. Enhancement, ça se dit en anglais. Le mot revient des millions de fois dans cette littérature. Aux États-Unis, c'est des centaines de milliers de livres, d'articles et de colloques depuis 20 ans. Donc l'idée de passer d'une médecine, encore une fois, de la thérapeutique, on appelait le médecin quand on était malade, quand on avait un accident, pour réparer. Et là, il s'agit de passer à une médecine de l'augmentation. Le modèle intermédiaire, c'est la chirurgie esthétique. Quelle que soit la définition que vous donnez de la laideur, ce n'est pas une maladie. Mais aussi les drogues, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, le Viagra, c'est de l'augmentation. La pub Fiat est admirable, mais avoir des problèmes d'érection passé 98 ans, disons, je ne choquais personne, mais donc je prends un âge très élevé. La vieillesse n'est pas une maladie. Voilà. En vieillissant, les raideurs se déplacent, comme dit l'autre. Pardon de dire ça sous la coupole, c'est très, très mauvais goût, mais bon. Deuxième idée qui est cruciale, c'est augmenter la longévité humaine. Contrairement à ce que les gens croient, on n'a jamais augmenté la longévité humaine, on a augmenté l'espérance de vie. Les premières statistiques en Europe, elles apparaissent en 1750. L'espérance de vie des Français en 1750 est de 22 ans. En 1863, quand Victor Hugo écrit Les Misérables, publie Les Misérables, l'espérance de vie des Français est de 37 ans en moyenne. Je vous donne hommes et femmes en même temps. En 1900, tenez-vous bien, elle est de 45 ans. En 1951, date extrêmement importante puisque c'est celle de ma naissance, l'espérance de vie est de 62 ans. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui, ce qui serait fâcheux surtout pour moi, mais statistiquement. Et aujourd'hui, en gros, c'est 82 ans, 79 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. Le projet de Calico, filiale de Google, c'est de faire pour les êtres humains ce qu'on a fait pour les souris de l'université de Rochester. Elles vivent 30% plus vieilles, enfin plus longtemps. Je dis plus longtemps plutôt que plus vieille parce qu'elles vivent beaucoup mieux, en bien meilleur état, beaucoup plus grande mobilité, pas de cataracte, peu de maladies cardiovasculaires, pratiquement pas de cancer. Et donc c'est pour un humain l'équivalent de 130 ans. Si mon ami Axel Kahl était là, il me dirait mais ne déconne pas, les souris et les hommes c'est pas la même chose. Mais le projet de c'est évident, il a raison. Le projet de Calico c'est de faire malgré tout par différents biais, par des augmentations diverses ce résultat. Et puis le dernier point et j'arrête là. Mais c'est pour que vous ayez les trois idées, parce qu'elles forment un système cohérent. Le troisième point, c'est au fond l'égalité des conditions. Ça s'inscrit dans un mouvement qui se veut démocratique, un mouvement qui vise l'égalité. Ce que disent les transhumanistes, c'est après avoir travaillé à l'égalité sociale, le temps est venu de travailler à l'égalité naturelle. From chance to choice. Passer de la loterie génétique, qui est amorale et aveugle et injuste, à la correction volontaire, notamment par deux découvertes fascinantes et récentes. Le séquençage du génome, qui est achevé en 2003, qui à l'époque coûte 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça coûte 1500 euros. Et le fameux CRISPR-Cas9, qui est un sécateur d'ADN, qui permet de couper-coller les séquences d'ADN, et donc qui ouvre la voie à l'ingénierie génétique. Je m'arrête là, mais pardon, si on n'a pas les trois, on ne peut rien comprendre.
Alors, pour avoir discuté de ce sujet il y a quelques jours avec Axel Kahn, il nous disait en gros, les personnes âgées les plus qui ont tenu le plus longtemps dans notre histoire, on n'ira pas au-delà de 122.
Bah, c'est Jeanne Calment, c'est le record du monde. C'est
exactement.
Pour ça que...
Et en l'occurrence, évidemment, et je me tourne vers les deux économistes que vous êtes, surtout en allant mieux, même si en plus on conserve quelques longues durées, quelques problèmes de longue durée, maladies chroniques, malgré tout, qu'on sait traiter, qu'on peut vivre avec... Ça change totalement l'enjeu économique pour notre société aujourd'hui. Comment être solidaire, comment payer les retraites et comment payer toute cette médecine qui permet cela. Claude Le Pen.
Oui, on va venir. Ça marche, oui. On va venir sur cette question effectivement des conséquences socio-économiques de l'allongement de la vie. Il faut quand même revenir un peu sur cette idée d'espérance de vie parce que elle est ambiguë et elle suscite, disons, une interprétation un peu erronée de ce qui se passe. Luc Ferry l'a dit, mais j'insiste là-dessus. L'espérance de vie augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on meurt plus vieux. Ça ne veut pas dire que la longévité a augmenté. Ça veut dire que plus de gens vivent vieux. La pyramide des âges, qui était autrefois une pyramide, est devenue un carré. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, si on prend une génération de gens, 100 000 personnes qui naissent, 90% dépasseront l'âge de 60 ans. Et à 84 ans, il y a encore la moitié de la génération qui est vivante. En 1900, les 10% qu'on perdait, on les perdait dans les 6 mois. Dans les 6 mois à cause d'une mortalité infantile qui était extrêmement importante. Donc on est dans une situation où la pyramide des âges est devenue très carrée, mais elle a augmenté en largeur, mais pas en hauteur. C'est-à-dire que en 1900, l'âge limite était 100 ans. Aujourd'hui, l'âge limite reste autour de 100 ans. Simplement, il y avait 100 centenaires en 1900. Aujourd'hui, il y en a 20 000. Et dans quelques ans, il y en aura 200 000 d'ici. Donc, c'est une statistique, l'espérance de vie. En gros, si on veut la comprendre, c'est l'âge moyen des morts. C'est l'âge moyen du décès. C'est comme ça que c'est calculé techniquement. Autrement dit, si on dit l'espérance de vie est 84 ans pour les femmes, c'est quand je prends l'âge des personnes qui décèdent de sexe féminin, en moyenne, elles ont 84 ans. Donc, on recule effectivement l'âge de la mort.
On recule la moyenne.
Mais on n'a pas, pour l'instant, on est passé de 100 centenaires à 20 000 centenaires. Il y avait zéro bicentenaire en 1900. Il y a zéro bicentenaire en 1900, en 2016. Et pareil pour les tricentenaires, et y compris pour les quinquacentenaires qui font, paraît-il, le succès de mon collègue.
À part l'Académie
donc,
des sciences.
Et d'ailleurs, c'est un peu piquant de parler d'immortalité ici, hein, entre nous. C'est, ou paraît-il, l'immortalité tombe du ciel. C'est assez rigolo. Bref. Deuxième sujet, pourquoi cette augmentation moyenne de la durée de vie moyenne, hein, et y a un grand débat, est-ce que c'est la médecine, est-ce que c'est pas la médecine? Vous l'avez rappelé, l'espérance de vie a commencé à croître bien avant le milieu du XXe siècle, bien avant que la médecine soit devenue efficace. Et donc pendant des siècles, elle s'est accrue à cause de mesures d'hygiène, à cause des mesures de à tout le mouvement hygiéniste français qui a détruit le Paris médiéval, qui a envoyé les tuberculeux à la campagne, qui a mis de l'air dans les villes. À l'époque, on pensait que c'est l'air qui amenait la mort. La mort était dans l'air fétide qui il y a encore une épidémie de choléra à Paris au milieu du Xe siècle. Donc l'amélioration des conditions de vie est responsable au moins tout au long du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. À partir de la première moitié du XXe siècle, les choses deviennent plus compliquées. Et en gros, il y a encore des facteurs comportementaux, il y a encore des facteurs environnementaux, et disons que, selon les études qu'on peut faire sur le sujet, on a deux tiers de facteurs purement médicaux. Effectivement, comme le disait Arnold, on mourait, 4 personnes sur 5 d'un infarctus mouraient il y a encore 10 ans, aujourd'hui c'est 1 sur 5. Donc on récupère un certain nombre de gens. Les progrès en oncologie sont spectaculaires. L'immunothérapie va amener aujourd'hui des survies dans des cancers qui étaient, il y a encore 2-3 ans, mortels à quasiment 100%. Donc, on est aujourd'hui sur une balance qui, effectivement, pousse un peu plus vers la médecine, moins vers l'environnement. Et ça, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est très récent. Et la première, et les quelques années qui arrivent. Un dernier point. On parle beaucoup de quantité de vie, mais au fond, est-ce que l'essentiel, c'est pas la qualité de vie? Bon. Et donc, au fond, aujourd'hui, nous, l'économiste de la santé, on a beaucoup poussé, hein, ces notions de qualité de vie. Et l'allongement d'une vie pour simplement le fait de gagner des années, un an de plus, 3 mois de plus, dans des conditions épouvantables de survie, perfusée, etc. Est-ce que... Voilà. Donc, on est un petit peu... Bon. Alors, c'est la problématique de l'acharnement thérapeutique.
Alors, malgré
il y a
tout,
cette notion de qualité de vie qu'il faut intégrer dans le débat sur la quantité de vie.
Très bien. Luc Ferry n'a pas l'air d'accord, donc c'est formidable. Mais attendez, je veux tout de même passer la parole à Charles Récom, parce que vous venez de souligner cet aspect de la question de la qualité de vie, évidemment, mais on a vu, ça a été posé d'emblée par l'audience scientifique, par le professeur Munich, qu'on a vu qu'elle a augmenté cette qualité de vie tout de même. Mais pour autant, tous ceux qui progressent dans l'espérance de vie parmi nous ne sont pas pour autant des actifs, ne restent pas des actifs, ne sont pas au moment où ils voient leur espérance de vie progresser, des actifs. Donc en termes économiques, ça doit vous affoler. Comment vous abordez la question du financement de cette phase de la vie à laquelle nous aspirons tous?
Bon, d'abord, il y a plusieurs composantes. Il y a la composante de la retraite, il y a la composante de la santé aussi. Ce sont deux volets différents. Premièrement, je pense que, d'abord, je suis très content d'être ici et que le débat a lieu. Je pense qu'il est grand temps que ce débat ait lieu. Souvent, le monde politique ne l'avait pas accepté. Je considère que l'allongement de la durée de la vie est une très bonne nouvelle. Ça, c'est le premier message. Le second, c'est que les acteurs, et quand je dis acteurs, ça veut dire l'État avec la sécurité sociale, qui, elle, est basée sur un mécanisme financier de solidarité, et les autres acteurs, qui sont les acteurs privés, que je représente, que ce soit des mutuelles d'ailleurs ou des sociétés anonymes. En plus, je représente Swiss Life, donc évidemment, on pourrait dire que c'est une société vraiment financière. Je voudrais simplement dire que les solutions financières ne vont être construites que si les deux mécanismes, donc la sécurité sociale et les complémentaires, travaillent ensemble, ensemble d'ailleurs aussi avec les partenaires
médicaux.
Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, qui est positif aussi, c'est que les techniques, et là je parle de mon domaine, c'est-à-dire la partie des assurances complémentaires, qu'elles soient retraite ou santé, sont basées sur des techniques financières actuarielles, je suis actuaire moi-même, c'est-à-dire on base les tarifs sur des paramètres, notamment ceux dont on vient de parler ici ensemble, le paramètre de l'espérance de vie, le paramètre...
On calcule les risques.
On calcule les risques d'occurrence de telle ou telle maladie, qui permettent à des gens donc, qui ne sont pas touchés par une maladie, finalement, de financer et de permettre à ceux qui sont touchés de passer à travers ces malheurs-là.
Et ça va changer ?
Et donc tout ça, c'est un savoir-faire qui existe. D'ailleurs, les assureurs, Swiss Life existe depuis 150 ans, on a traversé déjà plusieurs années, et donc l'allongement de l'espérance de vie, on sait ce que c'est. On vit, c'est pas nouveau. Donc, pour les raisons dont on a qu'on a expliqué tout à l'heure.
Mais qu'est-ce que ça va changer ? Ce système, quand je disais, vous êtes le pivot de notre système de solidarité, c'est que, évidemment, ce sont ceux qui travaillent, ce sont ceux qui ne sont pas malades, ce sont ceux qui n'ont pas d'accident, qui financent par leur cotisation ceux que l'on doit soigner et la retraite. Alors, est-ce que ça, à partir du moment où l'espérance de vie augmente, est-ce que ça va changer ?
Alors, au niveau des outils financiers, comme je le disais tout à l'heure, les outils financiers sont basés sur des paramètres. Ces paramètres, on peut les adapter quand on veut. Donc le savoir-faire à la fois financier de gérer de l'argent sur le long terme ou encore sur le plus long terme, cela existe dans certaines entreprises, surtout dans les assurances, évidemment.
Vous ne répondez pas à ma question.
Vais y arriver. Ce qui change, c'est que l'allongement de la vie va, si l'on veut vivre plus longtemps en faisant des choix, ses propres choix, ça veut dire qu'il faut évidemment accumuler des moyens financiers pour y arriver. Donc ça veut dire que, et c'est là qu'on a fait une enquête récemment au niveau de la population française, les Français sont conscients de l'allongement de l'espérance de vie, mais ils ne sont pas cohérents par rapport aux conséquences financières de cette vie plus longue. Or, les conséquences financières sont donc que, pendant une période plus grande, il va falloir cotiser, épargner.
C'est-à-dire
qu'au fond, c'est fondamental.
Au fond, vous nous dites, et c'est un point malgré tout très important, parce qu'il peut paraître très trivial, mais déterminant de notre débat, il y a une dimension éthique, il y a une dimension sur les enjeux, très bien. Est-ce que c'est un rêve, finalement, de vivre si longtemps ou pas, ou de vivre éternellement ? Mais vous nous dites simplement, aujourd'hui, et d'ailleurs, Luc Ferry le souligne dans ce livre, la prise de conscience des politiques et du public et des citoyens, des enjeux que représente cet allongement potentiel, n'est pas là aujourd'hui. Et vous nous dites, le public en particulier, et ça vous inquiète, n'a pas compris qu'il fallait cotiser plus tôt et plus longtemps.
Voilà, et ça m'inquiète, et ça veut dire que
nous considérons,
et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de participer ici au débat, je considère que le rôle des assureurs,
c'est de mettre les pieds dans le plat aujourd'hui et de venir parler.
C'est d'être pédagogique. On parlait ce matin, dans d'autres débats ici, de l'importance de la communication, de mieux informer. Je crois que c'est fondamental. Et nous devons expliquer. En plus, comme on vient de le dire tous ensemble, ce ne sont que des bonnes nouvelles. On doit mieux expliquer. Donc ça veut dire qu'il va falloir commencer à épargner le plus tôt possible. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire que travailler pendant la période de travail. On peut très bien se permettre de faire des années où on veut faire autre chose. Il y a d'ailleurs des très bonnes nouvelles aussi sur la solidarité. Les Français veulent, et ça c'est très très important, s'expriment en disant après ma période d'activité, j'aimerais bien être solidaire, aider mes prochains, etc.
Alors, je voudrais revenir sur un enjeu éthique issu de la technique, en quelque sorte, de la médecine de Luc Ferry. Ce que préconisent et ce que tentent de réaliser avec leurs considérables investissements, les GAFA dans certaines des start-up médicales, de biologie, etc., c'est bien d'arriver à un homme et une femme augmentés, c'est-à-dire quelqu'un dont on va reconstituer les organes qui vieillissent, donc qui tiennent et qu'ils tiennent plus longtemps. Nos scientifiques n'ont pas l'air d'y croire. Vous, vous dites, en tout cas, c'est ce que tentent de réaliser ces gens-là.
Ah non, il y a énormément de scientifiques qui y croient. Il y a un vrai débat entre bioprogressistes, si je puis dire, et bioconservateurs, mais il y a énormément de scientifiques qui y croient, et il y a énormément de scientifiques qui n'y croient pas. Vous citiez Laurent Alexandre, mon ami Guy Valencien, par exemple, il croit tout à fait. Bon. Et donc Google y croit, puisqu'ils investissent des milliards de dollars dans le projet. Maintenant, moi, je ne vais pas trancher le débat, j'ai aucune prétention. Mon livre est simplement fait pour donner les données, si je puis dire, du débat.
Mais ça nous pose quel problème dans le jeu d'éthique ?
Non. Si vous voulez, pour un grec ancien, la longévité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la qualité de la vie et c'est la capacité à habiter l'instant présent. Quand on habite l'instant présent, on rentre dans l'éternité parce que l'instant présent n'est plus relativisé par le passé, par le futur. C'est l'idée grecque qui domine le monde pendant très longtemps. Vivre, personne ne dirait, aucun grec ancien ne dirait qu'une vie de 80 ans est supérieure à une vie de 60. Ça n'a pas de sens. Maintenant, le projet transhumaniste contredit cette idée avec un autre projet philosophique, je vous l'indique simplement, encore une fois, après on peut discuter pour ou contre, est-ce que c'est absurde, est-ce que c'est faisable. L'idée transhumaniste, c'est d'augmenter vraiment la longévité, notre ami l'a bien dit, je l'ai dit aussi, pour l'instant on a augmenté l'espérance de vie, on n'a pas augmenté la vie. En gros, on meurt toujours autour de 100 ans. Et Jeanne Calment reste le record mondial. Et nombre de biologistes pensent qu'on n'ira pas plus loin pour un tas de raisons. Les transhumanistes, les biologistes qui travaillent dans l'université de la singularité ou chez Calico, pensent qu'on ira plus loin, qu'on fera ce qu'on a fait pour les souris. Et donc l'idée qui est philosophique qui est derrière, c'est de fabriquer une humanité qui soit jeune et vieille à la fois. Évidemment, il ne s'agit pas de prolonger la vie sur le modèle de l'acharnement thérapeutique et de nous mettre tous complètement en gâte en fauteuil roulant. Il s'agit de faire en sorte qu'on vive beaucoup mieux et qu'on reste jeune et physiquement et intellectuellement en forme. Et donc le projet, c'est d'y arriver par toutes les techniques médicales modernes, mais surtout évidemment par l'ingénierie génétique. D'ailleurs, je signale que ne me croyez pas, allez voir vous-même, pour les souris de l'université de Rochester, on a modifié le génome de leurs cellules embryonnaires. Je vous indique une chose encore, donc l'idée, vous savez, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, l'idée c'est de fabriquer une humanité qui soit les deux à la fois. Mon vieux père qui a fait la guerre de 40 et qui s'est évadé 4 fois des camps nazis et qui a vu des horreurs pas racontables en public, me disait toujours que si la guerre était réservée aux plus de 65 ans, il n'y en aurait pas beaucoup. Et ce n'est pas idiot. Et puis, dernier point, mon ami, pour qu'on comprenne. Une équipe de l'université de Sichuan, le mois dernier, a utilisé le CRISPR-Cas9, donc ce sécateur d'ADN, pour faire quelque chose qui est très intéressant, qui va être reproduit cette année par plusieurs universités américaines, en partant de quelqu'un qui avait un cancer du poumon. On a prélevé ces cellules cancéreuses et on a modifié le génome de ces cellules cancéreuses à l'aide de CRISPR-Cas9, c'est-à-dire que, j'explique ça très simplement, on a modifié des gènes qui codaient une protéine qui empêchait l'immuno de se développer, la défense immunitaire de se développer. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui...
On peut faire un progrès considérable.
Les thérapies géniques étaient plutôt en panne. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Personne ne le sait aujourd'hui. Mais on voit se développer cette ingénierie génétique, et c'est évidemment en très grande partie là-dessus que s'appuie le projet transhumaniste. Alors est-ce que ça marchera ou pas? Encore une fois, les biologistes les plus savants du monde sont vraiment très, très divisés sur le sujet, mais ils ne sont pas tous d'un côté ou de l'autre.
Je me tourne vers les deux professeurs qui sont ici, en l'occurrence et scientifiques. Comment réagissez-vous à cette description et est-ce que vous croyez à cette capacité rapidement de progresser dans l'amélioration même de l'être humain ?
Oui, je ne me reconnais pas dans les bioconservateurs dont parle Luc Ferry. Ce que je peux dire, c'est que nous utilisons dans nos laboratoires CRISPR-Cas9 tous les jours.
Ce séquenceur.
C'est des ciseaux moléculaires que tous les chercheurs de l'Institut Imagine étudient pour créer des modèles. Mais il s'agit de modèles cellulaires. Le risque, c'est de généraliser ce test cellulaire à la santé des hommes. Entre ce qui se passe dans un tube à essai, dans une cellule, et ce qui est raisonnable de réaliser chez l'homme, il y a un pas gigantesque qu'on est loin d'avoir accompli. Rentrer un gène de manière sûre dans une cellule est une entreprise qu'on appelle la thérapie génique, qui est extrêmement difficile, qui a connu de très rares succès, quelques unités. Donc c'est un rêve, c'est pas encore une réalité. C'est difficile de rentrer un gène dans une cellule malade, c'est difficile d'utiliser des ciseaux moléculaires pour corriger une mutation. Il ne faudrait pas que l'opinion s'imagine que parce que c'est techniquement possible au laboratoire sur une cellule, cela peut être un outil thérapeutique pour demain, pour toutes sortes de raisons, je n'en cite qu'une, ce qu'on appelle off-target, c'est-à-dire que quand on va couper une séquence, il faut prouver que toutes les autres séquences du génome sont intactes, qu'on n'a pas eu d'effets collatéraux, comme on dit.
Professeur.
De là à utiliser cette technique dont tout le monde parle, qui fait florès, qui fait gagner sûrement beaucoup d'argent à beaucoup d'écrivains, une réalité, il y a un pas que personnellement, moi, scientifique, je ne franchis pas.
Non, mais alors...
je vous ai dit que j'étais pas bioconservateur, mais modeste.
Bien sûr. Non, mais...
C'est moi que vous...
Non.
Mais c'était sûrement pas ça. Mais
moi, je voudrais peut-être dire un tout petit peu mon opinion par rapport à ça. Je pense que les connaissances actuelles nous ont fait prendre conscience de ce qu'il faut faire pour essayer de vivre plus longtemps en bonne santé. Et par exemple, tout ce qu'on a appris sur tous nos flores, ce qu'on appelle nos microbiotes, par exemple le microbiote intestinal, nous fait penser qu'il faut bien se nourrir, qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses. Ce sont des progrès énormes qui ont été faits et on n'a pas encore prononcé depuis le début de ce débat une épidémie qui est l'épidémie d'obésité qu'on a aux États-Unis. On ne l'a pas en France et je pense que si on essaie de faire comprendre aux gens qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses, l'alimentation en particulier, on va peut-être se préserver d'une épidémie qui est à la porte. Donc, avant de parler de grande biotechnologie et de grande manipulation, peut-être qu'il faut être un petit peu plus à terre et un peu plus à jour de ce qu'on peut faire aujourd'hui.
C'est à la fois fascinant et un peu décevant d'entendre un scientifique de votre niveau nous dire c'est beaucoup plus modeste et beaucoup plus simple que ça.
Non, mais
ça c'est pour le... Alors, juste, le temps passe. Et il ne faut pas que j'oublie la salle et de passer la parole. Je vais me tourner juste vers les organisateurs. Je veux savoir jusqu'à quelle heure. On est 17h30, la fin du débat, c'est ça. Alors, je me tourne vers vous. C'est la règle ici. Je vais prendre une série de questions. Prendre une série de questions. Qui est-ce qui a les micros, déjà, s'il vous plaît? Alors, monsieur me fait signe. Monsieur ici, deux, trois. Trois, voilà. Pas que des hommes, parce qu'après, je vais me faire encore accuser de ne pas être dans la parité. Monsieur, je vous en prie, un mot, votre question, présentez-vous, voilà. Si vous voulez bien.
Merci. On m'entend là, ça va?
Allez-y.
Merci à vous. Oui, moi, je voulais poser la question sur l'allongement de la vie. C'est bien, c'est un rêve. Mais oui, comme parlait le monsieur de l'assurance, tout ça, comment on financera la durée de la vie? Parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont vieillir et qui vont... avoir des loisirs, des choses comme qui vont s'occuper, mais est-ce que au niveau urbanisme déjà, enfin je peux poser la question, est-ce qu'on a pensé à la place, parce qu'il faudra mettre tous ces gens quelque part, voilà.
Alors donc voilà. Attendez, je prends une série de 5 questions, puis après monsieur ici, si vous voulez bien, mademoiselle, monsieur ici, allons-y. L'urbanisme, monsieur, on l'a noté. Monsieur, je vous en prie. Présente.
Bonjour à tout le monde. Je suis Armand Gaketia. Je suis doctorant en bioéthique, Université libre de Bruxelles. En même temps, je suis membre de l'association française transhumaniste. Je suis pris quand même de savoir que beaucoup ne s'y intéressent pas. Et je suis pris quand même également de constater que beaucoup de savants sont suffisamment pessimistes. La question que je veux poser peut-être va directement vers monsieur Luc Ferry. Est-ce que finalement, le problème du progrès n'est pas le principe de précaution?
C'est-à-dire?
Moi, regardez, comme moi je viens d'un pays d'Afrique, donc je suis là juste en Belgique pour faire des études, et je suis vraiment surpris que de l'autre côté, nous, on reste optimiste et que je puis arriver sous la coupole. Je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de génos pessimistes.
Merci. On a noté, monsieur ici, allez, passez le micro de ce côté-là, si vous voulez bien, monsieur.
Bonjour, je suis Antoine Meyer, je suis agronomiste de formation. Ma question est une interlocution par rapport aux assurances. Je ne perçois pas de changement de paradigme alors qu'on est en train de dire que beaucoup de choses changent autour de nous. Est-ce qu'on pense vraiment que la médecine de demain ne sera pas plus efficace économiquement, ce qui permettrait de réduire les coûts et de maintenir les prestations, assurances et sécurité sociale? Et d'autre part, est-ce que la prévention peut se renforcer? Et en parlant de prévention, là je ne pense pas à pénicilline, antibiotiques, je pense à Monsieur Frigidaire. Pour moi, le Frigidaire en tant qu'invention a permis de préserver un grand nombre de vies. Donc est-ce que ça aussi, ce n'est pas de la médecine, mais est-ce qu'on peut avoir de nouvelles innovations?
Merci. Alors, de ce côté-là, pardon, mais je veux m'obliger à voir s'il y a des femmes qui... Oui, j'entends bien, mais madame.
Non, moi, c'est simplement pour dire que la France n'accepte pas les OGM. Nous acceptera-t-elle...
Acceptera-t-elle les OGM,
génétiquement modifiés.
Quatrième question. Et ici, monsieur, là-bas. Voilà, ce sera la cinquième, la dernière de cette première série, s'il vous plaît.
C'était simplement pour compléter la question de monsieur.
Sur l'urbanisme
sur l'urbanisme, mais au-delà de ça, le transhumanisme, est-ce qu'il ne pose pas donc des problèmes de surpopulation qui amèneraient des problèmes de chômage, des problèmes d'alimentation? Parce que c'est bien beau de vivre très longtemps et vivre nombreux, mais...
Est-ce que le rêve, ce n'est pas l'enfer, quoi, au fond?
Voilà,
c'est
ça la question.
Bon, on va commencer par ça, sur ces deux aspects, puis on viendra dans le technique. Alors, peut-être l'économiste d'abord, la réponse sur la médecine, sur l'efficacité.
Il y a plusieurs questions économiques, on va essayer de les balayer rapidement. Premièrement, c'est quoi une société dans laquelle on vit plus longtemps, beaucoup plus longtemps, pas plus longtemps statistiquement, mais avec des longévités plus grandes? C'est aussi une société où on naît moins. Ce qu'on appelle la transition démographique a été, on a vu une baisse simultanée mais décalée de la mortalité et de la natalité. Il y a une espèce de régulation qui se fait et qui fait que finalement il y a un taux de croissance on ajuste les vies sociales à la vie biologique. Aujourd'hui par exemple l'âge de la naissance des jeunes femmes c'est plus de 30, entre 30 et 30 et demi 30 ans, donc il y a une espèce de d'adaptation qui se fait. Une société dans laquelle on vit plus longtemps change, c'est pas la même en plus long. C'est une autre chose, une autre société, enfin, avec des rapports différents. Deuxième point, sur l'impact économique et notamment... alors c'est très différent sur les traites et sur la santé. Sur les traites, c'est paramétrique. Il y a quatre variables, l'espérance de vie, l'âge de départ à la retraite, le taux de prélèvement obligatoire sur les actifs et le taux de remplacement des retraites pour les retraités. Et vous avez une équation, vous mettez ça dans l'équation, etc. Donc si vous voulez pas jouer sur l'espérance de vie, vous pouvez pas, c'est impossible. Vous pouvez pas jouer sur le taux de prélèvement obligatoire, sinon vous faites couler l'économie. Vous n'avez pas envie que vos retraités soient pauvres et donc vous maintenez un taux d'emplacement élevé, eh bien il y a la quatrième variable qui joue, c'est l'âge de départ à la retraite. Et dans une société vieillissante, on va aussi travailler plus longtemps avec cette idée, est-ce que le travail est pathogène, est-ce qu'il est stressant, est-ce qu'il génère de la bonne santé, etc. etc. Et c'est des questions importantes. Sur la santé, c'est plus compliqué, c'est pas paramétrique, ça dépend de deux variables, le coût du progrès médical. Il est tendanciellement en train de croître. Et dans quel état de santé fait-on vivre les gens? Est-ce que les gens vivent en bonne santé? Est-ce qu'on prolonge la vie? C'est notre discussion sur la qualité de vie qu'on avait amorcée il y a un instant. Est-ce qu'on prolonge une vie clean, une vie de gens qui sont en parfaite santé et qui ne consomment rien? Ou est-ce qu'on prolonge la vie de gens qui sont des gros consommateurs de soins, y compris pour pouvoir prolonger leur vie? C'est-à-dire qu'ils consomment des soins.
C'est les ALD dont je parlais tout à l'heure.
Et donc il y a une espèce. Et là, pour l'instant, on en sait pas trop. Sauf que jamais le programme médical, pour l'instant, n'a été cost-saving. Il a reculé les facteurs, la frontière, mais il a toujours coûté plus cher. On gagne en espérance de vie, mais on dépense plus pour
ce
cela.
Qui est difficile avec des scientifiques et même de sciences économiques, c'est qu'ils veulent être rigoureux. Donc, on passe par des équations, forcément. Mais la question qui a été posée, c'est le rêve ou l'enfer. Parce que, par exemple, il y a une donnée, c'est 2030, 60% de l'humanité dans des métropoles. C'est ça la réalité aussi de l'augmentation du nombre. Alors, d'abord sur le financement, pour rester dans cette discussion, mais vous n'échapperez pas au débat sur le fait qu'on devient de plus en plus nombreux et que la multitude est un problème. Voir nos quais ici, par exemple. Circuler, se loger est une difficulté. Monsieur Rélecom.
Voilà. Donc, je reprends la question aussi sur la santé. C'est clair que, donc, on était dans un système curatif. On a un mode maintenant de prévention de plus en plus fort. C'est clair que les techniques actuarielles sont en faveur de prévoir de mieux en mieux l'éventualité de l'apparition d'une maladie. Si l'on fait ça, on diminue bien sûr le coût de la santé et donc on rend l'accessibilité à la santé à un plus grand nombre. C'est assez simple. Là aussi, je parlais de cela, je pense que les assureurs, l'État aussi, mais je le prends pour moi, les assureurs ont un rôle de pédagogie très important pour favoriser la prévention, c'est-à-dire la bonne hygiène de vie, le sport, la bonne nourriture, etc., pour favoriser tout cela. Je crois que c'est fondamental. Après, un deuxième point, c'est que arriver à maintenir, ou à améliorer cette situation-là, ça ne peut se faire, encore une fois, c'était mon autre message, que si tous les acteurs travaillent ensemble. Exemple, la prévention, la sécurité sociale a des données très très importantes.
Elle ne les donne pas.
Aujourd'hui, c'est difficile.
Elles sont inaccessibles.
Voilà. Et on pourrait très bien, d'ailleurs ça va dans l'autre sens, les assurés privés ont aussi des informations.
Vous ne les partagez pas forcément.
Ils pourraient les partager. Il y a des pays dans lesquels ça existe. Qui y gagne ? Tout le monde y gagne. De nouveau, c'est la prévention, la question de monsieur tout à l'heure. Ça améliore les coûts. Okay. Donc, je crois que ça, c'est fondamental dans l'esprit avec lequel on aborde cette longévité qui, encore une fois, est une bonne nouvelle.
Professeur Munich, je sais bien que les praticiens, et à l'hôpital en particulier, n'aiment pas parler argent au sens des comptes qu'ils ont à faire, mais comment vous l'abordez, cette question du coût ?
Je trouve que c'est une question extrêmement importante et je voudrais répondre à deux questions en une seule réponse. C'est économique pour vous. Je vais en gagner du temps. Vous avez parlé, on n'a pas répondu, de la façon dont on voyait, nous autres, les scientifiques, l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne s'est pas dérobé. Je crois que c'est très difficile. On a mis nos interventions sous le signe de la modestie. Donc, je me garderai bien de prédire l'avenir. J'en suis pas capable. Ce que je pressens, c'est que le séquençage du génome va nous donner des explications mécanistiques à des maladies ou à des groupes de maladies. Et ça, c'est très utile. Aller de l'identification d'un gène à la compréhension d'un mécanisme, qu'il s'agisse de cancer, de maladies génétiques, d'Alzheimer, de tout ça. Et sur la base d'une bonne compréhension, faire evidence-based medicine, des traitements basés sur la compréhension des mécanismes avec des ripostes, soit individuels, ça, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, mais aussi vraiment collective, et je réponds à la question tout à l'heure, absolument, excellente, est-ce que le progrès ne va pas finalement réduire les coûts ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le progrès a augmenté les coûts.
Mais c'est d'abord, du court terme ?
Mais je pense que ça veut dire... Je voudrais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, trouver des médicaments, c'est presque facile. Trouver de quoi financer les médicaments, c'est extrêmement difficile. Quand vous pensez que mes gosses coûtent 250 000 euros ou 300 000 euros par an et par enfant, aucun système de protection sociale ne peut résister. Donc si on continue d'avoir un système inflationniste où le salaire de l'innovation thérapeutique, c'est des dépenses de plus en plus importantes, de plus en plus lourdes, on va se casser la figure. Alors je crois que...
Donc vous allez dans le sens de l'assureur qui nous dit
qu'il
faut utiliser ces données pour progresser en médecine en l'occurrence.
Et on va progresser, je crois, avec ce qu'on appelle les checkpoints, les grandes voies qu'on peut adresser collectivement. Et je pense véritablement qu'après avoir augmenté considérablement, les dépenses vont finir par baisser. Je pense à un exemple. Un exemple parmi tant d'autres de la maladie génétique la plus fréquente aujourd'hui en France. C'est la drépanocytose. Une maladie des jeunes issus d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. C'est 13 fois plus fréquente que la mucoviscidose. 13 fois plus fréquente.
Considérable.
C'est la maladie génétique la plus fréquente en France. Une seule mutation. Un gène, une mutation. On est en train de mettre au point des outils qui seront des outils collectifs. La même réponse à tous les enfants de France et d'ailleurs à une maladie qui est la plus fréquente des maladies génétiques. Vous voyez bien que le progrès médical commence par coûter plus cher et donc il faut vraiment investir dans la recherche et c'est une mauvaise économie que d'économiser sur les dépenses de recherche. Et puis, dans un deuxième temps, je crois que ça fera baisser considérablement les...
Non, mais c'est...
Donc aujourd'hui, ce qui est techniquement possible est économiquement insupportable. Mais je crois que ce qui est techniquement possible va devenir progressivement économiquement de plus en plus supportable.
Professeur Cossard.
Non, moi je voulais juste revenir sur ce que Luc Ferry a dit. De nous, nous ne sommes pas pessimistes. Nous sommes au contraire très optimistes.
Oui.
Ou, en tout cas, j'ai eu l'impression que vous aviez l'impression que nous étions pessimistes. Nous ne sommes pas pessimistes.
Non, c'est sans doute ma présentation binaire un peu, peut-être.
En tout cas, sommes prudents. Nous sommes prudents.
C'est insupportable de voir qu'un ministre de l'Éducation est aussi dissipé. Alors, ah ben oui, mais...
Non, mais l'utilisation.
Ça va être de ma faute. On est d'accord. Laissez parler. Bien sûr, c'est la faute des journalistes. Laissez parler.
Moi, j'ai trouvé formidable que vous puissiez présenter ici le couteau moléculaire CRISPR-Cas9. on est tout à fait conscient que c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais qui pose des problèmes. Donc, à l'heure actuelle, ce que je propose, c'est d'encourager la recherche fondamentale, plus que jamais sur cet outil-là, mais de rester avec l'esprit clair qu'il y a des problèmes éthiques qui sont soulevés par cet outil-là. Et s'appuyer sur les découvertes récentes pour justement faire avancer la santé, puisqu'il y a quand même des découvertes récentes.
Alors, il y a plusieurs questions qui ont mené à l'éthique. La question, j'ai caricaturé en disant rêve ou... Non, mais vous êtes le philosophe.
Pas du tout.
La question du rêve et du cauchemar, c'est-à-dire, ok, vivre plus nombreux plus longtemps, de la multitude, et cette question du principe de précaution qui créerait des différences entre les peuples, notamment sur Terre, entre ceux qui ont une vision un peu plus dynamique, un peu plus optimiste, et nous qui serions certes heureux d'avoir un tel passé, une telle culture, mais un peu engoncés aussi là-dedans. Qu'est-ce que vous répondez sur ces aspects ?
Je ne suis pas le philosophe de service. Vous auriez invité mon ami Finkielkraut, qui, je crois, doit s'abriter sous la coupole de temps à autre ici. Il pense à peu près diamétralement l'inverse de ce que je pense. Mon camarade Onfray, pareil. Donc il n'y a pas le philosophe.
Qu'est-ce que vous pensez, vous ?
Mais ce que je vais vous le dire, si vous me laissez trois secondes, je me ferai un bonheur de vous le dire. Je pense que, en effet, nous avons en France... et en Europe d'une manière générale, tendance, non pas à être pessimiste, c'est pas ça, mais nous sommes debout sur les freins. Principe de précaution. Nous sommes le seul pays au monde à avoir inscrit dans la Constitution ce foutu principe de précaution qui est la pire connerie qu'on ait faite depuis 40 ans. Et en plus, les gens n'en connaissent même pas la formulation exacte, qui est dramatique. Ça n'est pas parce qu'on n'a pas démontré que quelque chose était dangereux qu'il ne faut pas quand même l'interdire. Avec ça, vous ne mettez pas l'aspirine sur le marché. Je dis simplement, l'autre jour je parlais avec le patron de Google, qui est Google France, qui est un jeune homme charmant, et il me disait quelque chose qui n'était pas du tout idiot. Il me disait, nous Américains, quand nous voyons les progrès de l'intelligence artificielle, du séquençage du génome, de l'ingénierie génétique, des thérapies cellulaires, etc., notamment dans le domaine du cancer, les thérapies personnalisées, Google travaille avec 2500 CHU aux États-Unis pour faire la plus grande banque de cellules cancéreuses au monde, tout ça, nous réfléchissons, nous nous disons, écoutez bien les mots, ils ont un sens. Service rendu aux consommateurs, en l'occurrence aux malades. Vous, vous pensez protection du citoyen. Nous, on a les GAFA, vous avez la CNIL. C'est pas la même chose. Il faut les deux, mes amis. Mais il faut les deux. Il faut pas simplement avoir la CNIL et la protection. Maintenant, je vous donne un exemple de vrai danger de ces nouvelles technologies. Et celui-là, il est vraiment sérieux, puis il est déjà là. Oui, là, il y a des problèmes éthiques qui se posent. Mais je vous garantis que ça va quand même aller très très vite. Jusqu'à présent, les femmes pratiquaient très souvent la myosynthèse. Cette amniosynthèse, elle avait un grand inconvénient, c'est qu'elle provoquait une centaine d'avortements non voulus chaque année, d'embryons sains. Aujourd'hui, on pratique de plus en plus ce qu'on appelle le DPNI, c'est-à-dire le diagnostic prénatal non invasif, qui est un séquençage du génome de l'embryon. Grâce à des algorithmes intelligents, on peut séparer le génome de la mère et le génome de l'embryon. Et qu'est-ce que ça change, mes amis ? Ça change tout. Parce que ce séquençage du génome de l'embryon, il permet pas simplement de détecter la trisomie 21, mais des dizaines, peut-être même des centaines de maladies génétiques potentielles. Or, je vous donne un chiffre, il est réel, je pense que vous le confirmerez. 97% des femmes qui pratiquent une amniosynthèse et qui découvrent qu'elles ont un enfant, un fœtus qui porte la trisomie 21, 97% d'entre elles avortent. Quand on aura le DPNI très généralisé, et ça va être le cas, c'est déjà le cas, mais ça va être de plus en plus le cas dans les 5 ans qui viennent, évidemment, quand on pourra détecter des dizaines, voire des centaines de maladies génétiques potentielles, qu'est-ce qu'on fera ? Vous voyez, ce type de problème-là. Et ce qui m'inquiète, mon cher Thierry, je m'arrête parce que je sais que ça vous énerve que je parle.
Pas du tout.
Je vous le dis très franchement, le fait que nos intellectuels, y compris sous la coupole, et nos politiques soient nullissimes sur ces sujets est dramatique. L'idéalisation de la Troisième République, c'est très gentil. D'abord, c'était un monde dans lequel les femmes n'avaient pas le droit de vote, donc déjà, ça ne me plaît pas. C'était la Première Guerre mondiale, c'est 19 millions de morts. La Deuxième, c'est 60 millions de morts. Bon, donc cette idéalisation des blouses grises, des plumes sergent-major et des encriers en porcelaine emplis d'encre violette, c'est sympathique, mais on a besoin de gens qui ne découvrent pas le bon coin il y a 15 jours. On a besoin de gens qui sachent un peu ce qui se passe dans la révolution aujourd'hui, dans la révolution qui, encore une fois, va changer la biologie et la médecine, je le prétends et je maintiens cette formule, davantage dans les 30 ans qui viennent que dans les 3000 ans qui précèdent. C'est ça qu'il faut penser aujourd'hui. Oui, d'accord, je m'arrête.
Non, par respect. Non, mais je vous relance. Attendez, je vous relance d'une question, par respect pour madame, qui a posé la question des OGM.
Oui,
cette
je vous
dame
écoute.
M'a dit le principe de précaution, oui. Le principe de précaution, par exemple,
il est dramatique.
A fait que la France n'accepte pas les OGM. Est-ce que demain on va changer?
L'affaire des OGM, c'est à tomber par terre de bêtises. Qu'est-ce qu'on a mobilisé sur les OGM comme image qui revient des milliers de fois? J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. C'est l'image du docteur Frankenstein. Mais réfléchissez à ça parce que ça, c'est très profond. L'histoire de Frankenstein, c'est une histoire qui vient de la mythologie grecque, qu'on trouve présente déjà dans le 15e siècle allemand, et c'est un mythe théologique, c'est un mythe de la dépossession. L'histoire de Frankenstein, elle raconte l'histoire d'un médecin qui est d'un créateur. Il fabrique ce monstre en allant voler des cadavres, en lui donnant la vie par l'électricité du ciel, et le créateur est dépossédé de sa créature. C'est ça le mythe de Frankenstein. C'est un mythe de la dépossession. Et en fait, c'est une punition parce que le monopole de la vie appartient à Dieu, évidemment, dans la religion et dans toutes les religions. Vous appliquez le schéma de la dépossession à l'OGM, et ce qu'on nous explique, évidemment, c'est que ces OGM cultivés en champ ouvert, le pollen étant transporté par le vent jusqu'à 150 km, eh bien, le docteur Folamour va être, comme Frankenstein, dépossédé de sa créature qui lui échappe. Mythe de la dépossession. Moyennant quoi, on bouffe des OGM en France toute la journée sans s'en apercevoir, et personne n'en est mort. Je vous ai donné les chiffres de l'élévation du niveau de la longévité en France, ils sont colossaux, et donc évidemment que je ne plaide pas pour un principe d'imprudence. Mais encore une fois, la première application du principe de précaution en France, sachez-le, ça a été un arrêt du Conseil d'État à la demande de Greenpeace qui a interdit la mise sur le marché d'un certain nombre d'OGM qui étaient totalement inoffensifs et qui n'ont jamais tué personne. Vous avez eu une du Nouvel Observateur avec ce titre « Les OGM sont du poison ». C'est un scandale. Il y a des centaines d'OGM différents. Et que, encore une fois, on trie là-dedans ce qui peut potentiellement être dangereux et ce qui ne l'est pas, c'est pas une raison. Quand on fauche les OGM, et malheureusement le président de la République a donné à son ministre de la Justice l'ordre de ne pas poursuivre ceux qui fauchaient les OGM parce que ça gâchait le fameux Grenelle de l'environnement. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est la réalité. Quand on fauche des OGM, on fauche des années de recherche. Mais moi, ce qui m'inquiète, la seule chose qui me fasse peur, mes amis, j'ai pas souvent peur, mais c'est la technophobie, c'est la haine de la science. Et donc, c'est cette espèce d'atmosphère anti-science qu'il y a aujourd'hui en France. Regardez la crise de la vaccination. C'est le meilleur exemple. Gravissime. C'est une pure connerie. Voilà. Non.
Claude Merci. Le Pen.
Oui, non, mais si, Claude Le Pen. Non, mais Luc, si on ne peut pas être en désaccord avec vous. Bon, on ne peut pas être en désaccord avec vous sur la promotion de la science, on ne peut pas être en désaccord avec vous sur les ambiguïtés du principe de précaution. Il me semble quand même qu'il y a quelque chose dans le discours qui est un petit peu contradictoire, ou en tout cas ambigu. Vous dites, dans les 50 ans qui viennent, on aura plus fait de progrès que dans les 3000 années qui sont passées. Ok, j'accepte. Et d'ailleurs, finalement, dans les 50 années qui viennent de se passer, on a fait plus de progrès qu'aussi dans les 3000 années. Donc ce n'est qu'à la limite que la reproduction de ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du XXe siècle peut être étendue, mais il y a un précédent. La question, c'est est-ce que ça nous change? Est-ce que ça change l'homme? Est-ce qu'on devient des transhumains? C'est pas la question, est-ce qu'il y a encore un progrès qui va nous améliorer? Est-ce que ce progrès dont personne ne nie la réalité, voire l'amplification, avec peut-être des limites, est-ce que ça change? Est-ce qu'on devient des transhumains? Est-ce qu'on devient des gens qui,
oui.
brutalement, et mieux, est-ce qu'on devient des anti-humains?
Mais
parce
non.
qu'il y a dans la notion de notre société aujourd'hui un anti-humanisme rampant qui est dans un écologisme radical, qui est dans des religions qui excluent l'homme au nom d'un dieu, etc. Et au nom d'une certaine science aussi, qui veut nous transformer en espèce de robots faits de de pièces qu'on remplace et faire disparaître ce que, au fond, l'homme en nous. Il n'y a pas à faire de grand discours là-dessus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'ambiguïté ? Est-ce que vous ne prenez pas appui sur quelque chose qui est avéré, les projets de la science, pour faire passer quelque chose qui ne l'est pas, à savoir l'évolution. Non, pas plus que l'évolution. Hein, la disparition de l'homme.
Une mutation considérable.
La fin d'un homme ou de l'homme que nous connaissons au profit de quelque chose qui serait une espèce d'hybride mi-technologique, avec un peu de flèche de chair, beaucoup d'électronique et peu de conscience.
Non, c'est pas ça qu'on va. Mais pas du tout, mes amis. Mais non. On est dans le mythe de Frankenstein. Mais là on est vraiment.
La dépossession.
Non, d'accord. Oui, vous posez la question. Non, mais on est très à 99,9%.
Mais allez-y, faites profiter de votre dissipation.
Ah, c'est fascinant. J'y vais, promis. Deux choses. La découverte de la double hélice de l'ADN, Watson et Crick, c'est 1953. Donc, vous voyez, si on trace les lignes du progrès, ça devient extraordinaire. Bon. Et donc, là-dessus, on est d'accord. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui m'intéresse ? Je ne suis pas un transhumaniste fanatique. Je pense que Ray Kurzweil est un grand barjo, le patron de l'université de la singularité.
Un des transhumanistes.
Et donc, le pape du transhumanisme aujourd'hui. Donc, je ne suis pas cinglé. Je dis simplement que si on pouvait augmenter la longévité humaine vraiment, c'est-à-dire si on pouvait vivre, mettons, 120 ou 130 ans, on aurait probablement une humanité qui serait plus sage, qui serait moins bête. Je vais vous dire, je vais choquer beaucoup de gens. J'ai 66 ans, et ben je vais vous dire, en tout cas je parle pour moi, on n'est pas plus intelligent à 66 ans qu'à 20, mais on est beaucoup moins con. Et ça c'est très important. Mais c'est très important. Et dans tous les domaines, y compris pour élever ses enfants, y compris. Mais bien évidemment, mon cerveau fonctionne peut-être moins bien que celui des jeunes gens qui sont là. Mais je vous prétends que, par exemple, pour élever mes enfants, je suis beaucoup plus prudent, beaucoup moins bête, beaucoup moins rapide, beaucoup moins violent, beaucoup moins dogmatique. Et donc je pense que, en effet, si on pouvait fabriquer une humanité qui soit jeune et vieille à la fois, elle serait probablement plus sage. Mais je ne parle pas de fabriquer des hybrides post-humains monstrueux. Voilà, ça c'est en effet le projet d'une grande partie de l'université de la singularité, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, je cite évidemment dans mon livre les critiques qu'on fait à ce projet, qui n'est pas d'ailleurs le projet transhumaniste, mais le projet post-humaniste. Est-ce qu'on peut en dire un mot ou pas ? Parce qu'il est fascinant.
Allez-y.
Ils veulent, c'est le projet de l'université de la singularité. C'est-à-dire que le projet de l'université de la singularité, c'est de parvenir à l'immortalité. Mais comment ? Pas dans un corps biologique. Tant que vous serez dans un corps biologique, vous mourrez. Bon. Et donc, le projet de l'université de la singularité, c'est le projet de l'intelligence artificielle forte. C'est-à-dire de fabriquer un jour une machine qui aura exactement les mêmes connexions neurales que le cerveau et qui sera par conséquent capable de conscience de soi et d'émotion. Et ce qui est assez inquiétant, parce que moi, quand j'ai discuté avec ces gens-là, au début, je rigolais, mais ils me regardaient dans le blanc de l'œil comme si j'étais un spiritualiste du 19e siècle en voie de disparition. Pourquoi ? Parce qu'ils sont matérialistes. Et ils pensent par conséquent que nous sommes déjà des machines. Et qu'ils sont monistes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'un côté l'âme et de l'autre côté le corps. Ils pensent que l'un et l'autre, monisme, ne font qu'un. Et donc ils sont en train de travailler à fabriquer des séquences de neurones qui commencent d'ailleurs à discuter entre elles. C'est assez inquiétant. Et l'idée qui m'a fait réfléchir à ça, c'est que quand j'ai vu que Elon Musk...
Lui-même est inquiet.
Exactement. Elon Musk, Bill Gates et Stephen Hawking, qui ne sont pas trois clowns, ont signé avec 1000 des plus grands chercheurs du monde aujourd'hui, de toutes les nations, une pétition en juillet 2015 contre les dangers de l'intelligence artificielle forte. Et Elon Musk a mis 10 millions de dollars de sa poche dans une fondation pour réfléchir aux dangers de cette intelligence artificielle forte. C'est ça le projet de fabriquer une machine immortelle. Et sur la question démographique, évidemment, vous voyez pourquoi SpaceX, Elon Musk, prépare la colonisation de Mars pour 2025. Ils ont mis dans le Texas une énorme bulle, un petit chercheur français y a d'ailleurs participé, complètement hermétique, pour préparer la colonisation. Elle commencera en 2025. Et voyez que d'ailleurs, toute la recherche spatiale repart aujourd'hui à cause de ça. Pour une autre raison.
C'est Stephen Hawking qui disait il y a quelques jours, on ne vivra pas 1000 ans de plus sur Terre si on n'est pas capable d'aller
coloniser. Il a dit que c'était le plus grand danger.
Mars ou une autre.
C'était le plus grand danger.
Terre, elle meurt dans 4 milliards d'années, hein, je vous signale.
On a le temps.
Mais elle n'est pas éternelle.
Bon, les deux potages sont d'accord, on a le temps. Alors, la salle à nouveau. Non, madame, j'ai cru que vous me faisiez signe. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, tout en haut, voilà, mademoiselle et monsieur. Faites signe. Non, monsieur, pardon. Oui, j'ai mal vu. Voilà, ici et monsieur devant. Allez, ça fonctionne, dans le micro, s'il vous plaît. Chut, s'il vous plaît.
Oui, j'ai une question pour mettre un petit peu d'humour.
Ah bah, il y en a déjà pas mal.
Oui, on s'en manque un petit peu parfois. On vit sous une coupole qui voit 40 immortels. Pour l'instant, le record, c'est M. Claude Lévi-Strauss, 101 ans. Si on passe à 500, il faudra beaucoup de temps avant qu'un académicien soit remplacé.
Ok. Monsieur, jeune homme devant, là, voilà. Transmettez le micro, s'il vous plaît. Faites signe, monsieur. Monsieur, voilà. Faites signe, sinon, voilà. Je vous en prie.
Merci. Je vais me présenter. Je m'appelle Thibault Harlé, je suis doctorant en physique. Et je voulais poser la question, est-ce que cette question du transhumanisme n'appelle pas aussi une question de une nouvelle définition de l'homme? Et que quand on parle de technophobie, il y a une partie aussi de la peur de ce changement de définition, ce changement de paradigme. Et cette histoire de transhumanisme, ce qui fait le plus peur aux gens quand on en parle, c'est de voir être dépossédé de leur humanité, en fait. Mmh.
Vous voyez, monsieur, qu'on peut presque déjà être académicien très jeune. Alors, est-ce qu'il y a là, de ce côté-là, je me retourne vers vous, des questions éventuelles? Oui, bien joué. Alors, monsieur, allez-y.
Oui, on pratique très fréquemment, en France en particulier, les greffes d'organes. Or, ça sauve des vies, aussi bien par greffe de cœur que greffe de cerveau, pas de cerveau, mais de rein. Et est-ce que vous ne pensez pas que l'histoire du transhumanisme, ça va faire diminuer le don d'organes, parce que les gens penseront qu'il y a d'autres moyens que ces techniques-là, alors qu'effectivement,
le cœur artificiel,
elles sauvent des centaines de vies.
Merci. Deux aspects très importants. Troisième question ici même, quatrième question, pardon. Monsieur ici, s'il vous plaît. Ici, mademoiselle. Faites signe, monsieur, voilà, je vous en prie.
Bonjour. Je suis élève ingénieur et j'aurais une question pour nos deux scientifiques parce que ça fait un peu longtemps qu'ils n'ont pas parlé.
C'est gentil pour eux. Ouais.
Vous pensez que, enfin, quelle sera la prochaine révolution dans le domaine médical? Peut-être que imprimer des organes avec une imprimante 3D, c'est encore loin, mais je ne sais pas, tout ce qui est traitement du signal avec des prothèses, ça avance beaucoup dans l'ingénierie médicale. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, madame ici? Ce sera la dernière à ce stade, mademoiselle. Non, parce que ça, en plus, on va repasser ça sur les sites de RFI et des Rencontres Capitales, donc il faut qu'on vous entende et que ce soit enregistré.
Ok, merci. Je suis enseignante en mathématiques retraitée. L'une des questions que je me pose, est-ce que ce type de préoccupations que nous évoquons ne concerne pas une toute petite partie de l'humanité qui a d'énormes moyens financiers? Et actuellement, je me dis qu'il y a des enfants qui meurent encore de la rougeole dans certains endroits. Est-ce que les progrès de la médecine ne devraient pas aussi, et avant tout peut-être, s'occuper de ça avant de se préoccuper de l'allongement de la vie?
Merci, madame. Alors, je commence par vous deux, à travers les deux questions. Un, la question de l'ingénieur.
Moi, je veux bien rebondir tout de suite sur la question de la dame, parce que finalement, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut des méthodes de prévention par la vaccination. Ça, c'est absolument indispensable. Il faut s'appuyer sur les découvertes de ces dernières années. Et je le disais tout à l'heure et je le répète, je pense qu'il faut s'appuyer sur tout ce qu'on a appris, sur toutes les maladies infectieuses et sur tous les micro-organismes qui nous sont bénéfiques pour justement prendre conscience qu'une bonne alimentation est absolument indispensable, qu'il faut une hygiène qui soit bonne, mais jusqu'à un certain point, puisque on sait très bien que trop d'hygiène empêche le système immunitaire d'être suffisamment efficace. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut s'appuyer sur toutes les découvertes récentes. En tout cas, je voudrais quand même dire une chose par rapport au système CRISPR-Cas9, Monsieur Ferry, c'est que nous allons avoir un débat à l'Académie sur l'utilisation de cette technologie, soit chez l'homme, soit chez l'animal, soit chez les plantes. Et vous êtes cordialement invités, puisque nous avons trois spécialistes qui nous parleront de ça. Pierre Corvol parlera de l'utilisation chez les hommes, Georges Pelletier chez les animaux, et Jean-Paul Renard sur les animaux et Georges Pelletier sur les plantes.
On aurait
Emmanuel Charpentier
Non, ce jour-là, elle ne viendra pas, elle est déjà venue.
On aurait envie de vous dire, et nous aussi, on est invités.
C'est une séance qui est publique, et j'en profite pour vous inviter.
Eh ben voilà, formidable, j'ai bien fait de poser la question. Professeur Munich, alors, s'il vous plaît, sur les questions qui ont été posées sur le risque, par exemple, qu'on ne veuille plus de faire de dons d'organes, et l'évolution sur le don d'organes, qu'est-ce qu'il en est ? Par ailleurs, les progrès auxquels on doit s'attendre demain en médecine, plus largement encore, qu'est-ce que vous nous dites ?
Moi, je suis très sensible à la question sur les maladies infectieuses et sur la mortalité par les infections aujourd'hui. Parce que je crois vraiment que le vrai défi pour nous, c'est le progrès, mais aussi la diffusion sociétale du progrès. Et c'est là qu'on souffre énormément de voir cette inégalité de l'accès aux soins. Toutes ces avancées scientifiques dont on parle, vous pensez qu'elles sont généralisées en France ? Mais pas du tout. Il y a une perte de chance énorme lié au fait qu'on n'arrive pas à accéder aux centres de référence qui sont dispersés, que les prouesses sont le fait d'un tout petit nombre de sites, et que le vrai défi, c'est comment généraliser l'accès de ce programme médical au plus grand nombre. Et ceci, on en est loin. Dans le domaine même encore ici. Dans le domaine qui devrait sembler évident, qui est celui des diagnostics des maladies génétiques, les tests génétiques, à supposer qu'on les réalise de manière tout à fait rigoureuse, avec les précautions éthiques que cela implique, eh bien ces tests génétiques, ils sont aujourd'hui techniquement possibles. On sait faire le diagnostic d'un enfant autiste, ou d'un enfant retardé mental, ou d'un enfant qui a une surdité, ou qui est nain, ou qui a un déficit immunitaire. Et c'est très important de faire du diagnostic, parce qu'aujourd'hui, il y a des thérapeutiques. Donc on est dans une situation absolument paradoxale, où il y a déjà des thérapeutiques, et on ne sait même pas qui peut en profiter, parce que ces tests n'ont pas diffusé de manière solidaire et équitable, y compris dans notre pays. Que dire ailleurs, au-delà de nos frontières ? Donc il y a une situation paradoxale, où au fond, on a un essor des sciences et des technologies, et cet essor ne profite pas à un très grand nombre, et il y a une perte de chance individuelle et collective par rapport à cet essor des technologies, parce que ça ne circule pas, parce que ça ne diffuse pas, et parce que finalement les médicaments qui sont aujourd'hui disponibles, on ne sait même pas à qui les donner.
Alors sur cette question, et on va revenir sur les questions techniques si j'ose dire, mais sur cette question du partage sociétal des progrès ou du progrès, Claude Le Pen, Charles Rélicom.
Sur la question du partage, il y a un des éléments essentiels de croissance de l'espérance de vie, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale permet aux techniques de toucher les gens auxquels elle s'adresse. Vous pouvez avoir
parce qu'il y a un financement universel.
Parce qu'il y a un financement universel, parce que c'est redistribué, parce que c'est fait en sorte que les gens... c'est un complément, il y a un tiers payant, c'est une prise en charge collective, c'est la reconnaissance que la santé des uns, et c'est le problème des autres, que votre santé m'intéresse, et que je suis prêt à payer pour que vous soyez en bonne santé, et puis vous paierez pour que je le sois, et que nous sommes solidaires sur cet aspect-là. Et cet aspect-là est décisif, parce qu'effectivement, les techniques les plus... Enfin, je ne vais pas redire ce que dit Arnold, mais les techniques les plus sophistiquées, non utilisées, ne produisent aucun effet.
Mais ce
n'est pas simplement les technologies, parce qu'en Afrique, avec les parasitoses et la rougeole, c'est des techniques anciennes. Ce n'est pas des techniques très, très modernes de génétique moléculaire qui peuvent amener des grands gains d'espérance de vie. C'est les diffusions de traitements qui existent depuis
des années. Ce que nous dit quand même M. Rélicom, c'est qu'elle est en partie menacée si on ne prend pas conscience collectivement qu'il faut bracotiser plus tôt, plus tard et davantage.
Il faudra en tout cas travailler plus, oui, ça c'est sûr.
Oui. Monsieur Rélicom. Monsieur Rélicom.
C'est pour ça que je porte le message pédagogique, mais j'essaierai de le faire aussi dans tout le pays, c'est qu'aujourd'hui, dans notre enquête dont je parlais tout à l'heure avec les Français, tout le monde est conscient de l'allongement de l'espérance de vie, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais il n'y a que 8% des Français qui envisagent de travailler un petit peu plus longtemps. Or ça, mais c'est ça, clair ça que mathématiquement, comme je le disais tout à l'heure, ça ne va pas aller, il n'y a pas une petite fée qui va apporter des sous dans l'écuelle. Donc il faut absolument commencer à épargner plus tôt et travailler un petit peu plus longtemps. Ça ne veut pas dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas être flexible. C'est encore un élément important. Je ne vais pas rentrer dans la technique actuarielle, c'est que l'avantage, si on commence plus tôt et que l'on verse régulièrement, donc que l'on épargne régulièrement, c'est un facteur très important financièrement pour éviter les trop grandes volatilités boursières. C'est-à-dire que
on discipline diversifie, le système financier.
Exactement. On diversifie beaucoup plus dans les placements puisqu'on place pendant des plus longues périodes, à des périodes différentes.
Et franchement,
ça, c'est fondamental.
C'est pas un réflexe de jeune de vouloir penser à sa retraite.
Si, si, mais c'est pas un réflexe que l'on voit aujourd'hui, puisque dans, on devrait l'avoir, mais aujourd'hui, les Français pensent, répondant à notre enquête Swiss Life, que 34% pensent qu'à 34 ans, pardon, on devrait commencer. Et ce que l'on constate dans nos données, c'est 50 ans. Donc les Français commencent seulement à 50 ans. Donc même si ils l'expriment...
Le système par répartition fait qu'on paye beaucoup plus tôt. On cotise plus tôt, on l'oublie.
Donc il faut absolument... Et je voulais encore peut-être juste préciser un petit sujet tout à l'heure par rapport à l'échange des données, puisqu'on parlait de la prévention. C'est que dans notre enquête aussi, les Français se sont exprimés en disant qu'il n'y a pas de tabou pour transmettre des données. 68% des Français se sont exprimés pour le transfert de données. Et j'insiste, on n'a pas besoin,
ils n'ont pas peur.
Et on n'a pas besoin des données nominatives pour faire des tarifs. On a besoin de données anonymes par segment, je dirais, de risques plus ou moins homogènes.
Oui, mais là, il y a en ce moment, dans ce débat, une inquiétude. Souvent, on montre les assureurs, par exemple, comme étant des puissances potentielles avec les GAFA qui, demain, changeront complètement le paradigme de la façon d'aborder la question de l'humain et de la solidarité.
Mes amis, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook, et puis les autres qui vont avec, les autres réseaux sociaux, Microsoft et d'autres, et puis les entreprises d'Elon Musk, elles sont aujourd'hui ces entreprises beaucoup plus puissantes que des États. Elles vont 1000 fois plus vite. Et pourquoi mon livre pose le problème de la régulation ? Pour moi, le problème est crucial. C'est pour ça qu'on n'est pas, malgré la pensée, en désaccord. Le problème de la régulation sera très difficile, aussi bien dans le domaine de l'économie collaborative, c'est-à-dire opposition entre Airbnb et les hôteliers Uber et les taxis, que dans le domaine du transhumanisme. C'est-à-dire, madame prof de maths, il n'y a pas d'opposition entre la médecine de pointe et les retombées. C'est la Formule 1 qui a permis qu'on installe les freins à disque sur les voitures de monsieur tout le monde. Les deux vont de pair. Bon, après, le problème de l'égalisation des conditions est un problème d'économie et de politique sociale, mais ce n'est pas un problème de recherche. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la régulation sera très difficile. Pourquoi ? Parce que, un, c'est hyper technique. Moi qui ne suis pas savant, pas de profession, j'ai mis 4 ans à écrire ce livre et j'ai fait l'effort d'apprendre ce qu'il fallait apprendre pour comprendre au moins un peu ce qui se passe. Bon. Et ce n'est pas ce que font ni nos intellectuels ni nos politiques. C'est très technique, ça va très vite. La loi de Moore s'applique à peu près partout. Et en plus, c'est mondial, ce qui fait que les législations nationales n'ont pas de sens. Le lobby catholique du Sénat a obtenu qu'on interdise l'insémination artificielle avec donneur pour les femmes seules. Ça fait plaisir au lobby catholique du Sénat. C'est autorisé à Bruxelles et à Londres. Ça ne sert à rien, à part à embêter les femmes françaises. Et donc, on a vraiment un problème, vous voyez, de régulation à venir, qui est très important. Encore une
fois, aussi bien... Et comment on va réguler, alors ?
Il faut que, à mon avis, ce sont les politiques qui doivent le faire, mais évidemment en s'appuyant sur l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, sur l'Office parlementaire. Mais c'est aux politiques de réguler, c'est pas au comité Théodule de le faire. Ils peuvent éclairer le politique, mais voyez bien, on parlait du progrès du séquençage du génome qui permet de repérer des centaines de maladies potentielles. Je vous donnais les chiffres sur l'avortement volontaire en cas d'amniosynthèse. 97% des femmes avortent quand elles perçoivent que le fœtus est porteur de la trisomie 21. Qu'est-ce qu'on va faire quand on détectera des centaines de maladies ? Ou jusqu'où on ira ? Qu'est-ce qu'on va autoriser ? Qu'est-ce qu'on va interdire ? Selon quels critères ? Qui en décidera ?
C'est la question posée par le jeune homme.
Et donc, c'est pour ça que je voulais répondre. Et donc, la seule chose que je veux dire, c'est que si nos politiques et nos intellectuels ne comprennent rien à ce qui se passe et qu'ils sont dans les années 80, ils auront beaucoup de mal à réguler.
Claude Le Pen.
Oui, mais ils le feront et on le fera. Si vous voulez, c'est pas très si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Il y a des grands choix collectifs qui. Aux États-Unis, vous nous dites GAFSA, Elon Musk, etc. Aux États-Unis, c'est formidable. Les États-Unis ont une espérance de vie plus faible que nous. Bon, ils ont la meilleure technologie et une espérance de vie plus basse. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'État-providence. Donc il y a une c'est très simple. C'est très simple. C'est très compliqué historiquement, mais il y a des solutions institutionnelles. On peut pas faire comme si on allait être les victimes de phénomènes scientifiques qui nous dépassent et que notre collectif, le dégage ne peut pas entraîner une réflexion et des outils de régulation. Par exemple, sur les data, aujourd'hui, un assureur, si vous achetez un appartement, il peut vous faire, il peut vous assurer, vous faire un examen de santé complet. Vous voyez un généraliste, un radiologue, un cardiologue, etc. Et vous avez des données complètes. Si, si vous souscrivez un contrat d'assurance maladie, vous n'avez aucun droit. Et il y a une frontière complète entre le secteur de l'assurance immobilière où l'examen de santé est autorisé, le secteur de l'assurance complémentaire en santé où l'examen est interdit. Donc on peut.
Et ça, c'est une erreur.
Non, c'est pas une erreur. Mais nous pouvons, c'est-à-dire que les règles, les institutions, la politique, la loi, ça existe et ça sert.
C'est un bon exemple parce que c'est vrai qu'en France, on a décidé, les acteurs privés ont décidé de ne pas faire de sélection médicale sur base de, et pourtant on arrive, et je reviens au sujet tout à l'heure, grâce à la prévention, et si on échange des données encore une fois, on arrivera encore mieux. La seule chose, c'est qu'évidemment, la vitesse du développement évidemment augmente, c'est exponentiel, donc à nous de rentrer ces informations le plus rapidement possible dans nos systèmes pour pouvoir anticiper. Mais encore une fois, c'est... Maintenant, encore un point, je vais prendre un exemple. La dépendance. Donc on a parlé, on n'a pas encore abordé ce sujet-là. C'est typiquement le sujet sur lequel, malgré qu'une compagnie comme Swiss Life a les produits, on pourrait demain, enfin on les sort d'ailleurs, on a les produits, mais je ne...
Financiers.
Financiers. Donc la technique actuarielle existe.
Pour financer la dépendance.
Voilà. Je ne les sors pas. J'ai pris la décision. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il serait inefficace sur un marché qui n'a pas été, celui-là, réglementé par l'État. Je trouve que là, l'État, je ne dis pas que l'État doit être l'acteur complet, on revient à ce qu'on disait avec
Le Pen. Mais il faut pousser les politiques à décider d'une politique sur la dépendance.
Mais oui, parce qu'on serait beaucoup plus efficace, tous, de nouveau, s'il y a un pilier sécurité sociale, et puis nous, les assureurs complémentaires, on serait beaucoup plus efficace avec nos amis ici de la médecine, pour être bien, fort et mettre ce système au plan national en place.
Il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on conclue par deux questions, si vous voulez bien. Vous avez dit, Luc Ferry, à l'instant, en réponse à Claude Le Pen dans l'oreille, oui, enfin, bien sûr, on va pouvoir réguler. Enfin, pour ça, il faut qu'on comprenne. Donc, j'ai deux questions. Quelles sont, professeur, c'est pour répondre à la question sur les greffes, les dons d'organes ou les progrès en médecine. À quoi doit-on s'attendre en termes de progrès demain ? Et du coup, la question, Claude, je vous en prie, et la question du jeune homme, le changement, s'il vous plaît, le changement de paradigme, aidez-nous, aidez-moi, le changement de paradigme par rapport à l'être humain, comment il faut voir l'homme demain ? Voilà, on peut repartir pendant une heure et demie, mais quand même, en 3 minutes, je suis sûr que vous pouvez conclure là-dessus. Professeur, je vous donne la parole pour conclure sur cet aspect.
Le vrai progrès pour moi, ça serait un partage plus solidaire du progrès médical. Le progrès médical ne diffuse pas aujourd'hui. Ne croyez pas, mesdames et messieurs, que le progrès diffuse. C'est l'apanage d'un tout petit nombre de personnes privilégiées qui ont accès
ça,
à des centres de référence. Mais la réalité, c'est les déserts médicaux. La réalité, c'est la pyramide des âges. La réalité, c'est l'absence de formation des professionnels de santé qui ne se tiennent pas au courant et qui ne permettent pas la diffusion du progrès médical. Vous n'imaginez pas la perte de chance liée, collective, liée justement à cette absence de... À cette
espèce de connaissance du système.
Voilà. C'est ça, le vrai progrès, ça serait de partager le progrès.
Merci. Avant de laisser la parole à Pascale Cossard pour qu'elle dise un mot de conclusion, parce qu'on est chez elle, si j'ose dire, qu'est-ce que vous nous dites sur cette question de la vision de l'homme de demain ?
Le vrai progrès, ce serait qu'on augmente assez massivement le nombre de généralistes et qu'on les oblige à la formation permanente continue. Et on a créé l'INCa pour ça. L'Institut, comme mon ami David Kayat a créé l'Institut National du Cancer, c'était pour égaliser les conditions sur le territoire. Moi, j'ai un ami qui est mort du cancer de l'estomac parce qu'il avait été soigné pendant 3 ans à l'Alka-Seltzer. Et ça, c'est un vrai sujet. Vraiment, les généralistes ont beaucoup de mérite, mais c'est un métier dans lequel on ne peut pas ne pas se former toute sa vie. Sur la question de l'humanisme, je pense que le propre de l'humain, c'est la perfectibilité. Je pense, contrairement aux philosophes du bonheur, que les animaux... Moi, je les adore, j'aime les animaux, j'ai milité pour qu'on modifie la loi l'année dernière, j'ai réussi avec d'autres à la faire changer, mais les animaux sont des êtres de nature, nous sommes des êtres d'historicité. Je sais exactement comment rendre mon petit chat heureux, il lui faut des graines, il lui faut le caresser, il lui faut jouer avec un bouchon, il faut le laisser dormir 18 heures par jour. Mes filles, c'est beaucoup plus compliqué, ça change tout le temps. Elles n'ont pas les mêmes besoins à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et nous sommes des êtres d'histoire. Et donc mon critère éthique, Je pense que le propre de l'humain, c'est la perfectibilité, c'est l'historicité, c'est le progrès, c'est la capacité d'innover, c'est la liberté. Et donc je pense que le critère fondamental en matière de régulation, ce sera d'interdire ce qui déshumanise et d'autoriser ce qui humanise. Je pense que ce sera très difficile, contrairement à mon ami qui pense que ça ira peut-être plus facilement que je ne le crois, parce que pour réguler, encore une fois, il faut comprendre. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en matière de science et en matière d'économie, il faudrait que nos politiques n'aient pas comme seule et unique culture la sociologie électorale et la com.
Question.
Très court.
Très court. Comment on voit l'homme dans 100 ans on est en 2016, comment voyons-nous les gens de 1916? Est-ce que les gens de 1916 sont différents de nous? Est-ce que c'est des hommes différents? Tout a changé, rien n'a changé. Eh bien, je fais le pari que les hommes de 2116, nous verrons, nous, en 2016, comme nous, on voit les gens de 1916.
Eh bien, on verra si on peut tenir le pari tous ensemble.
Alors,
Charles Rélecom.
Je vais faire court pour faire plaisir à Thierry. Donc, premièrement, je pense qu'on vient de l'entendre, hein, il y a une obligation d'interroger la société, et c'est bien la société qui doit faire ses choix, donc ce sera sans doute pas très facile. Et puis en tant qu'assureur, pour terminer sur une petite note d'humour, moi j'aime bien les clients vivants et vivants très longtemps.
Alors j'ai fait un rêve. J'ai imaginé que là, tout d'un coup, on avait un embryon de gouvernement, là. Et puis qu'on avait une présidente, peut-être. Pas un président, mais une présidente. Et je vous cède la parole, Madame la Présidente.
C'est alors, très gentil.
Mais de notre assemblée, au moins.
Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont venus pour écouter un philosophe qui parle science, des scientifiques qui ont essayé de dire leur avis. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que l'information scientifique circule et passe au grand public. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les scientifiques sont prêts à partager ce qu'ils savent et sont prêts à communiquer ce qu'ils savent
et leurs doutes du professeur Munich.
Et je voudrais dire qu'à l'Académie, nous organisons de plus en plus de débats, de conférences où nous convions le public pour qu'il s'informe. Donc, mon souhait, c'est que les gens qui sont dans l'audience soient bien conscients que les choses avancent, que nous sommes prêts à partager ce qui existe.
Alors, à cet égard, et d'abord, merci de votre accueil. Ensuite, peut-être qu'on peut remercier les 5 orateurs ici même. Merci à vous. Très sincèrement, à cet égard, sur cette question du transhumanisme, il y a énormément de bouquins. Décidément, on n'y arrivera pas. Hein. La dissipation est totale. Et pourtant, et en plus, j'allais dire du bien de ce livre, parce que tout en ne l'ayant pas intégralement lu, ce serait faux, je mentirais en disant que c'est le cas, il est quand même très construit. Et dans tout ce qui sort sur le transhumanisme en ce moment, il y a cet effort de réflexion éthique et en même temps d'explication, j'allais dire scientifique, qui est dans ce livre. Et je vous recommande donc La Révolution transhumaniste, comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies, chez Plon, de Luc Ferry. Professeur, je pense que ça vaut la peine là de mettre quelques euros. Et puis... C'est une boutade. Non. Et puis, je voudrais vous demander un petit service. Pour des raisons d'organisation de ces rencontres capitales, pour des raisons de sécurité, nous avons tous conscients à l'esprit de ce que ça veut dire en ce moment. Il faut sortir de cette salle en prenant toutes vos affaires, ne rien laisser, car il y aura un contrôle pour la suite de ces rencontres capitales et pour les rendez-vous de demain. Je voudrais vous renvoyer aussi au site de RFI et au site aussi des rencontres capitales sur lequel ce débat sera rediffusé, et vous remercier tous de votre participation ici. Bravo.